Innovation complète, la société Angélie vous garantit un service à la hauteur de vos exigences.
Des professionnels spécialisés dans la rénovation d'intérieur, des fournisseurs reconnus, des délais respectés et surtout, un excellent rapport qualité-prix.
11 ans d'expérience, la garantie décennale, la société Angélie, 8 rue Guillaume Bertrand dans le 11e. Pour un devis gratuit sous 48 heures, 01 43 38 15 65. 43 38 15 65.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Les catholiques qui s'opposent à la recherche sur l'embryon sont taxés d'obscurantisme. Après la polémique du Téléthon, l'Église peut-elle encore s'exprimer publiquement pour défendre la vie? L'Alliance pour les droits de la vie organise sur ce thème un face-à-face exceptionnel entre deux journalistes emblématiques, Jean-Yves Naud du Monde et Gérard Leclerc de France Catholique. Un débat animé par Tugdual Derville. Rendez-vous mercredi 7 février à 20h30 au centre Assiem, 6 rue Albert Delaparent, Paris 7e. Renseignements au 01 45 23 08 29 ou www.universitedelavie.fr.
Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Sur 100.7.
100.7.
Aujourd'hui l'Église.
Entre ceux qui sont persuadés que Satan est une histoire pour faire peur aux enfants et d'autres, même d'âge mûr, qui sont plutôt tétanisés de peur quand on évoque son nom, où se situe la juste mesure et surtout, de quelles armes disposent les chrétiens face au mal? Nous en parlons avec le père Pierre Descouvement qui vient de publier récemment « Comment gagner le combat spirituel » paru aux éditions de l'Emmanuel. Cette émission est réalisée en partenariat avec le mensuel Il est vivant, disponible en kiosque Il est vivant du mois de février, dans lequel vous retrouvez un dossier très clarifiant intitulé « Le diable existe-t-il? Satan existe-t-il ? » De fait, c'est un paradoxe, père Descouvement, de voir autant de jeunes qui tombent dans le satanisme ou une fascination certaine pour la noirceur et la mort, et dans le même temps, ce fort déni de l'existence de Satan, y compris de la part des croyants. Je suis retombé sur un vieux sondage qui disait que la moitié des catholiques pratiquants nient l'existence du diable.
Et effectivement, il est vrai que c'est un fameux mystère que Dieu, tout-puissant et infiniment bon, permette l'action de Satan, notamment sur ceux comme le Padre Pio qui sont de fidèles serviteurs du Seigneur.
Oui, pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas épargné cet adversaire?
Eh bien, c'est le mystère de l'homme, de la créature. Dieu ne pouvait pas créer des êtres impeccables. Il n'y a que Dieu qui est impeccable. C'est le béaba d'une réflexion sur le mystère du mal.
Si l'on parle de combat spirituel, c'est qu'il y a un adversaire.
C'est qu'il y a un adversaire, oui. Alors, pourquoi y a-t-il tant de personnes aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, qui nient l'existence du diable? Parce qu'ils disent, le diable, c'est une simple idée. C'est l'idée d'un Dieu pervers, n'aimant pas l'homme, dont il faudrait se débarrasser. Et c'est vrai que le diable suscite dans les esprits l'idée que Dieu ne nous aime pas tellement. Bon, qu'on fait la toute première tentation vis-à-vis d'Adam et Ève. Dieu vous a dit de ne pas manger de Dieu. Dieu est si méchant que ça. Mais le diable est plus qu'une idée, c'est vraiment un ange déchu qui exerce une action maléfique sur le monde.
On va chercher à comprendre d'ailleurs, oui, à travers vos propos tout au long de cette émission. Si les auditeurs ont des questions à poser, s'ils ont des difficultés dans leur combat spirituel, n'hésitez pas à témoigner ou poser vos questions au père Pierre Descouvement, qui pourra bien sûr y répondre. 0892 68 80 30 0892 68 80 30. Il faut dire que vous êtes chevronné, père, dans le combat spirituel?
Oh, absolument pas, je ne suis pas... Non, ce serait bien prétentieux de prendre... Tous les chrétiens sont amenés à combattre. Oui. Et je ne suis pas sûr de remporter toutes les... Je sais que je ne remporte pas toutes les victoires, sinon je ne me confesserai jamais.
Par le baptême, nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils de Dieu. C'est une phrase tirée du catéchisme de l'Église catholique. Pour quelle raison, alors, le Satan peut-il avoir une emprise ou mener une action dans le cœur des baptisés?
Nous avons surtout à combattre contre nos propres passions, contre nos défauts, ce que j'appelle les alliés de Satan qui sont dans la place. Mais c'est vrai que Satan stimule en quelque sorte ses alliés pour qu'ils fassent leur travail. Mais quand on parle de... C'est vrai que lorsque on parle de combat spirituel, on ne pense pas immédiatement à la lutte que nous avons contre Satan en tant qu'être personnel, mais la lutte contre le mal en général.
Et d'ailleurs, peut-être faut-il avoir une perspective, enfin remettre en perspective l'existence de Satan. Si on nie son existence, alors on passe à côté du combat qu'on doit mener. D'ailleurs, vous le dites, c'est comme si des soldats s'imaginaient que l'ennemi est purement imaginaire. Alors, d'accord, à ce moment-là, ils sont vraiment en danger.
Oui, oui.
Hein, c'est ce que vous soulignez. Et peut-être pour rappeler cela, je vais citer un témoignage que l'on retrouve dans le mensuel Il est vivant, celui d'un homme qui aujourd'hui est prêtre et qui disait qu'il était continuellement frôlé par des êtres qu'il ne voyait pas. À chaque fois, ses cheveux se dressaient sur la tête. J'avais la chair de poule, dit-il. L'être visqueux revint de la même manière. Sa venue fut précédée par des coups sonores sur le mur de ma chambre. C'est digne de film fantastique, même de films d'horreur. J'étais de nouveau paralysé tandis qu'il rampait sur ma poitrine. Mon cœur était pris d'une panique épouvantable. Là encore, impossible de bouger, de crier. Après un long mois, j'allais demander de l'aide dans un monastère. Il vint dès la première nuit, mais toute la communauté pria pour moi et je fus complètement libéré. Témoignage du père Pierre dans le mensuel Il est vivant.
Oui, je pense que personnellement, c'est en assistant à des exorcismes plusieurs fois que j'ai vu en quelque sorte le diable à l'œuvre. Hein. Le signe que quelqu'un est malmené par Satan, c'est que cette personne ne peut plus participer à une Eucharistie, ne peut plus entendre prononcer le mot de Jésus, de Marie, du curé d'Ars, de Sainte-Thérèse, de l'enfant Jésus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait au cours d'une prière d'exorcisme? On récite les litanies des saints. Et dès que la personne entend Sainte Marie, Mère de Dieu, prier pour nous, elle réagit avec une force décuplée. C'est d'ailleurs extrêmement mystérieux que le diable n'accepte pas l'audition des noms des saints et n'accepte pas non plus l'aspersion d'eau bénite. C'est même cocasse.
Si vous cocasse doit être terrible, non?
Oui, c'est bizarre, quoi. Hein, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau ordinaire sur la personne malmenée par Satan, ça ne fait rien du tout. Si vous jetez quelques gouttes d'eau bénite, la personne réagit, suivant le vieux proverbe français, comme un diable dans l'eau bénite. Et le signe que Satan est parti, c'est qu'on peut faire une onction d'eau bénite sur le front de la personne. Si la personne ne réagit plus, c'est que Satan la laisse tranquille.
Il y a ces trois degrés d'emprise possible qui sont rappelés, oppression, obsession, possession.
Oui, c'est-à-dire que, oui, possession, c'est quand la personne est vraiment totalement sous l'emprise de Satan. Bon, malmenée, c'est quand elle ne peut plus prier, voyez. Et puis, il y a aussi alors ce que certains saints ont bien expérimenté, comme le Padre Pio, le curé d'Ars, Satan, qui ne pouvant pas exercer une action sur l'imagination des saints, les embête. Tapage nocturne, par exemple, dans le presbytère du curé d'Ars. Hein, ou bien, je suis en train de faire des conférences dans mon diocèse sur Yvonne Aimée de Malétroit, cette religieuse du Morbihan, qui a été jetée par terre par Satan. Et quand saint Paul nous dit qu'un ange de Satan le soufflette, il n'est pas impossible que saint Paul ait été tabassé par Satan apparaissant sous une forme humaine. Hein, c'est extrêmement mystérieux. Mais
oui,
ça,
cela soulève de nombreuses interrogations aujourd'hui qui sont très matérialistes. Hein,
De même qu'un ange.
Très scientifique également.
Que même qu'un ange peut se manifester sous forme humaine. Rappelez-vous la fameuse réponse de Jeanne d'Arc à Rouen, parce que les juges se moquaient. Comment était-il habillé, votre ange Saint-Michel, votre archange Saint-Michel? Beaucoup mieux que vous, mes seigneurs, a-t-il répondu. Bon, bien de même, Satan peut se matérialiser sous la forme d'un beau jeune homme qui séduit une personne, et comme la personne refuse, elle est jetée par terre. Hein, Yvonne Aimée Malétroit a conservé toute sa vie les séquelles d'une chute qui a eu lieu ici à Paris, dans le 16e arrondissement, parce qu'elle n'avait pas voulu répondre à la séduction de Satan.
Il ne faut pas avoir peur du diable, mais il faut prendre sa réalité au sérieux, dit le père Jean-Régis Fropeau, qui exerce le ministère d'exorcisme dans le diocèse de Toulon.
C'est cela. Hein,
ne pas avoir peur, pourtant c'est assez terrifiant d'entendre vos propos.
Je dirais volontiers ce que disait le fameux père Molinier, un magnifique dominicain, hein, qui a écrit un livre merveilleux que j'encourage beaucoup mes auditeurs à lire, « Le courage d'avoir peur ». Bon, c'est-à-dire qu'il y a, une bonne peur du diable. Il y a une peur panique dont il faut débarrasser les gens. D'ailleurs, beaucoup d'exorcistes passent beaucoup de temps à dire à telle ou telle personne que cette peur panique est ridicule et que ce n'est pas du diable dont elles ont peur, mais qui vient les embêter, mais que ce sont leurs fantasmes. Par contre, il y a une bonne peur de rater sa vie, une bonne peur du diable, qui est celle des saints. Je résume ça volontiers dans une équation du premier degré, C égale F de D. La confiance est fonction de la défiance. Ceux qui ne croient pas à la possibilité de rater leur vie, qui n'ont pas peur du diable ni de l'enfer, ils n'ont pas tellement besoin d'avoir confiance en Dieu. Ceux qui, au contraire, prennent au sérieux le mot de Jésus, suivant lequel on pourrait rater sa vie, prennent très au sérieux la dernière démarche, la dernière demande du Notre Père, « Délivre-nous du malin ». Et quelqu'un comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui pourtant a été d'une extrême générosité dès sa jeunesse, craignait encore de rater sa vie 6 semaines avant de mourir. Elle avait une bonne peur du diable, une bonne peur de l'enfer. Et, comme dit Jésus, craignez celui qui peut vous faire perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Les saints ont une bonne peur du diable, qui provoque une excellente confiance en Dieu. Hein, tandis que ceux qui ne croient pas au sérieux de la vie, qui ne croient pas que l'existence humaine est dramatique, qu'on pourrait rater sa vie, ils disent en quelque sorte « Cœur sacré de Jésus et confiance en moi, je suis un brave, je suis peut-être pas un saint, mais ne t'en fais pas, je n'ai rien à craindre ». Ça, c'est dangereux. Hein ? Il y a une bonne peur. Hein ?
Vous faites allusion peut-être à ce qu'on appelle le quiétisme, hein, qui a habité en partie...
Non, c'est le quiétisme, c'est encore un petit peu autre chose. Le quiétisme, c'est... L'archevêque le plus célèbre de Cambrai, d'où je viens, Monseigneur Fénelon, a été taxé à juste titre, où on discutera encore longtemps de savoir si c'est Bossuet qui l'a fait condamner. Toujours est-il qu'en 1699, il s'est soumis à la décision de Rome parce qu'il favorisait un peu trop les écrits de Madame Guyon, qui, elle, était quiétiste. C'est-à-dire, peu importe si je pêche, l'essentiel, c'est d'avoir confiance en Dieu. Hein ? Quiétisme, c'est une paresse intellectuelle.
Pourquoi une paresse intellectuelle ?
Une paresse spirituelle. Oui,
pourquoi une paresse spirituelle ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on ne fait plus d'efforts justement pour combattre. On dit c'est le Seigneur qui fait tout, c'est le Saint-Esprit qui va m'aider à surmonter mes tentations, et donc on supprime le combat spirituel.
Alors justement, on parle de combat spirituel, vous avez évoqué cette dernière phrase du Notre Père, et puis tout à l'heure, on évoquait ces manifestations assez rares, hein, d'emprise de Satan sur certaines personnes et qu'on délivre grâce aux exorcismes. La vraie difficulté peut-être pour ceux qui ne fréquentent que peu les églises et même les autres, c'est peut-être de discerner ce qui est de l'ordre du combat spirituel personnel et puis ce qui est de l'ordre d'un exorciste,
oui, bien sûr,
ou d'une action
particulière. L'immense majorité des chrétiens n'a pas affaire directement à Satan. Bon, mais
Dieu merci.
Mais ils savent très bien qu'ils doivent combattre leur orgueil, leur sensualité, leur paresse, enfin tous ces péchés capitaux, comme on l'a dit à un certain moment dans l'Église, et que c'est là que se situe, c'est là qu'ils prennent leur résolution, quoi. Hein ?
Est-ce que vous avez conscience que quand vous parlez de péchés capitaux, de Satan, ça peut paraître effroyablement désuet pour beaucoup de personnes.
Je pense au livre de Pascal Hyde sur les péchés capitaux qui a beaucoup de succès. Bon, je pense qu'un jour ou l'autre, ces idées fondamentales reviennent.
Vous savez, on les nomme peut-être différemment, on les présente différemment.
Mais enfin, c'est les péchés fondamentaux. Je ne vais pas faire l'histoire des péchés capitaux. Pendant longtemps, il n'y en avait qu'un, c'était la fameuse Akedia. Hein, c'est-à-dire le dégoût de vivre qui prend les pères du désert à midi, quand il fait chaud, ils n'ont plus envie de prier, ils ont envie de manger.
Le fameux démon de midi.
C'est vraiment le démon qui vient taquiner les moines, les pères du désert, à midi, quand il fait chaud. Et on s'est servi de cette expression du psaume 90 pour désigner cette tentation Et alors après, le démon de midi a aussi désigné la tentation des gens de 40 ans, hein, qui ont envie de changer de vie, de changer de femme, de changer de monastère, etc.
Pour quelle raison il y a cette tendance aujourd'hui à oublier l'existence du diable ? À quoi vous l'attribuez ?
Tout simplement parce que c'est un mystère, c'est un fameux mystère. C'est peut-être l'un des plus grands mystères. Hein. Comme dit le catéchisme de l'Église catholique, la permission que Dieu donne aux démons de taquiner ses enfants est sans doute le plus grand mystère qui soit.
Taquiner, le mot est petit.
Hein. Le mot est trop faible, hein, de tourmenter. Hein. Et alors, le mystère de la Providence, je suis en train de préparer un autre livre sur la Providence, hein, que Dieu se serve même des mauvais anges pour réaliser les desseins impénétrables de sa Providence.
Alors cela, c'est encore plus incompréhensible.
C'est encore plus incompréhensible. Hein, que Dieu se serve des bons anges pour réaliser ses desseins, d'accord ? Mais qu'il se serve également... Regardez, Jésus reconnaît la volonté du Père à travers la passion, la passion qu'il va subir. Or, il sait très bien que c'est le prince des ténèbres qui a mis en route la passion. Donc, Jésus, notre modèle, notre maître à penser, reconnaît la volonté du Père à travers les manigances de Satan. Hein, Et alors ça, c'est absolument incompréhensible.
Et en même temps, il nous en libère.
En même temps, il s'en libère, bien sûr, oui. Mais il nous en libère vraiment. Malheureusement, certains clercs aujourd'hui, pour les dire, hein, disent Satan, Jésus serait simplement venu nous délivrer de la mauvaise idée d'un Dieu pervers et qui trotterait dans l'esprit des gens. Non, il n'est pas venu nous délivrer d'une idée, il est venu nous délivrer de Satan.
Pourquoi vous avez réalisé cet ouvrage, Gagner le combat spirituel ?
Pourquoi je l'ai réalisé,
écrit.
Parce que je me rends compte que depuis longtemps, je le prêche dans mes retraites. Et alors, à vrai dire, j'avais imaginé comme titre le combat spirituel, et ce sont les lésions de l'Emmanuel qui ont eu la bonne idée d'ajouter gagner le combat spirituel pour montrer qu'il faut avoir une âme de vainqueur.
Mmh. On y voit d'ailleurs sur cette couverture, c'est Saint Georges, hein,
qui terrasse le dragon. Oui.
D'une certaine manière, cela fait percevoir que depuis plus de 2000 ans, l'Église combat l'adversaire, et puis bien avant même,
l'histoire
de la Révélation.
Oui.
On va suivre vos trois démarches successives, hein, afin de ne point s'égarer. Nous allons emprunter le même itinéraire que dans votre ouvrage. Mieux percevoir la tactique du diable, dites-vous, et puis la riposte du chrétien, puisque nous sommes en quelque sorte dans une bataille rangée quand on suit votre ouvrage, avec tout un tas d'armes, en quelque sorte, hein, de missiles, d'offensives possibles. Nous allons, d'une manière très pratique, découvrir cela, bien sûr avec une remise en perspective du combat ultime au moment de la mort. On se retrouve dans un instant et n'hésitez pas, vous auditeurs, à poser toutes vos questions au père Pierre Descouvement qui signe donc cet ouvrage « Gagner le combat spirituel » aux éditions L'Emmanuel. On se retrouve dans un instant, mais tout de suite, c'est le Flash. Il est 11h et c'est avec Jean-Marc Roquez.
Bonjour, un adolescent a passé 36 heures sous les décombres d'un immeuble. Cela s'est passé en Turquie. L'immeuble de 8 étages avait été évacué en novembre en raison des risques d'effondrement. Mais plusieurs personnes l'utilisaient encore pour élever des pigeons. Il s'est effondré dimanche, causant la mort de 5 personnes. Et ce matin, 36 heures plus tard, Abdallah, âgé de 15 ans, vient d'être dégagé. Il est vivant et ses jours ne sont pas en danger. À Jakarta, sous les eaux, en revanche, c'est l'inquiétude. Les risques sanitaires qui pèsent sur les centaines de milliers de sinistrés augmentent d'heure en heure. Déjà, quelques 40 000 personnes ont été traitées pour des affections diverses et choléra et typhoïde menacent. Jakarta, où de nouvelles pluies torrentielles ont encore gonflé les crues, 36 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début des inondations il y a une dizaine de jours. Il y a un disparu et quelques 350 000 sans-abri. En France, la demande de sang augmente, mais le nombre de dons ne suit pas. C'est le cri d'alarme que lance l'établissement français du sang, qui lance un appel aux dons pour conquérir de nouveaux donneurs. Quant aux médecins généralistes, leurs syndicats mettent la pression sur les honoraires. Ils invitent leurs membres à réclamer à leurs patients 23 euros pour leur consultation, au lieu des 21 euros réglementaires. Une façon de faire pression sur l'assurance maladie en pleine négociation tarifaire. Les caisses d'assurance maladie rappellent que les consultations ne sont remboursées que sur la base de 21 euros. Une trentaine d'interpellations ce matin en région marseillaise. La police a fait une descente dans le milieu des machines à sous clandestines. Des arrestations et perquisitions sont encore en cours. Le pape condamne fermement la violence dans le football. Le Saint-Père le dit dans un télégramme de condoléance publié hier en son nom par le secrétaire d'État du Vatican. Un message à l'occasion des obsèques du policier tué vendredi lors d'affrontements à Catane avec des supporters. Création à Bordeaux d'une paroisse personnelle confiée à l'Institut du Bon Pasteur de l'abbé Laguérie. Dans cette paroisse sera célébrée la messe dite de Saint-Pie-V. Samedi, un bus était incendié dans la ville du Mans, dans la Sarthe. Un mineur de 13 ans et demi déjà connu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue, c'était hier. Il a reconnu avoir incendié ce bus, expliquant avoir voulu jouer avec son briquet. L'expertise technique a confirmé cette hypothèse. Et puis un nouveau journal gratuit en Île-de-France, il se nomme Matin, il est lancé par Le Monde et le groupe de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Matin Plus est la tête de pont en Île-de-France de Ville Plus, le réseau de quotidiens gratuits lancé par des quotidiens régionaux pour contrer Métro et 20 minutes. Il est 11h03, excellente fin de matinée.
Retrouvez-nous sur internet www.radionotre-dame.com.
Vous souhaitez déposer une intention de prière qui apparaîtra dans notre prière du matin ? Téléphonez au 0892 68 80 30, rubrique Intention de prière. Elle sera portée le matin à 6h03 et 7h16. 0892 68 80 30, rubrique Intention de prière, 34 centimes la minute.
L'invité de Denise Dumoulin.
L'invité de Denise Dumoulin.
Retrouvez chaque jour une personnalité, écrivain ou artiste, témoin de la foi qui fait aimer la vie et porte l'espérance.
L'invité de Denise Dumoulin.
Tous les jours à 14h30, sauf le jeudi.
En partenariat avec les œuvres pontificales missionnaires, à la découverte des témoins de la mission d'aujourd'hui. Témoigner sa foi en Jésus-Christ, veiller à l'unité des chrétiens et les aider matériellement. Telle est la vocation de l'œuvre d'Orient. Retrouvez les interventions de Mgr Philippe Brizard, directeur de l'œuvre d'Orient, chaque samedi à 6h24 et 7h24, le dimanche à 19h35 et le mardi à 16h55.
Niché au cœur des vallées espagnoles, Ségovie ressemble à un navire de pierre.
Les passagers sont priés de se rendre en salle d'embarquement.
Ville merveilleuse et mystérieuse, romantique et fascinante. Riche de légendes et d'histoires, RND visite Ségovie dimanche 11 février à 10h30 sur Radio Notre-Dame. Wow !
Dis maman, est-ce que c'est là l'église où j'ai été baptisée ?
Vois cette église ! C'est là où nous avons dit un dernier au revoir à ta grand-mère.
Tu vois là ? C'est l'église où ton père et moi nous sommes mariés. Et là, c'est l'église où j'aime venir prier.
Pour chacun de nous, il y a une église dans notre vie. À nous de la faire vivre. Dans toutes les églises d'Île-de-France, un dépliant de participation financière au denier de l'église est à votre disposition.
Aujourd'hui, l'église.
Revêtez l'armure de Dieu, écrit saint Paul, pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Ces écrits du Nouveau Testament sont pour beaucoup désuets, voire surannés, paradoxes criants, alors que les jeunes, dont la culture chrétienne et la foi sont bien fragiles, on le sait, eh bien, ces jeunes sont largement attirés par ce qu'on appelle le satanisme. Dans son ouvrage, le père Pierre Descouvement invite les chrétiens à fourbir leurs armes, un peu comme à l'école de guerre, dit-il, où il faut apprendre l'art de combattre et de gagner les batailles. D'ailleurs, le titre de votre ouvrage, hein, père Pierre Descouvement, « Gagner le combat spirituel », c'est un ouvrage tout récent paru aux éditions de l'Emmanuel. Cette émission est réalisée en partenariat avec le mensuel Il est vivant, disponible en kiosque. Le titre du dossier du mois de février, le diable existe-t-il ? Le repos est impossible dans le combat spirituel ?
C'est un paradoxe, parce que tantôt le Seigneur nous invite à nous reposer, tantôt à combattre. Vous voyez, on pourrait faire presque toute une émission là-dessus. Tantôt, la sainteté consiste à se reposer dans le Christ, à demeurer dans ses bras, comme saint Jean l'a fait le soir de la dernière scène. D'ailleurs, dans mon livre, je dis que l'arme est sans... le char blindé des mains de Jésus, c'est là où il faut sans cesse se réfugier contre Satan. Mais à d'autres moments, le Seigneur nous demande de reprendre des résolutions, de partir en offensive contre Satan. Hein ? Justement, le quiétisme, auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, c'est le fait de tellement compter sur le Seigneur qu'on finit par ne plus prendre de résolution, par ne plus se méfier de l'existence du péché dans sa vie.
On ne peut pas se déresponsabiliser.
On ne peut pas. C'est-à-dire que celui qui... On peut beaucoup insister sur le fait de se reposer en Dieu, mais il faut aussi à d'autres moments combattre. Hein ? Moi, j'ai été formé par un prêtre à Valenciennes qui nous disait « Messieurs, soyez des hommes, comme Jeanne d'Arc
». Quelles sont les tactiques du diable ? Parce que vous en avez repéré quelques-unes.
Il y en a plusieurs. Bon, il y a par exemple l'anesthésie, c'est-à-dire il endort notre conscience. Vous savez que une des grandes tentations auxquelles nous succombons tous, plus ou moins, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire qu'on se persuade qu'une conduite, finalement, n'est pas si mauvaise que cela. Par exemple, bon, j'ai pas un mauvais caractère, j'ai du caractère. Bon, si je me confesse trop souvent, je vais développer mes scrupules. La prière, c'est réservé aux contemplatifs.
Bon, ça, on l'entend souvent.
Oui, c'est ça. Donc, ce sont des slogans que Satan nous suggère pour nous empêcher de combattre un défaut.
Et pourquoi vous dites que c'est Satan ?
Parce
que
ça... Bien, c'est-à-dire que, non, c'est
parce notre... qu'on pourrait dire, oui, en vous répondant, vous personnifiez finalement une difficulté à rejoindre Dieu, à la rigueur.
Tout à fait d'accord. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le combat, il est essentiellement à mener contre nos défauts, contre nos slogans, tout en sachant que Satan utilise ses alliés, ses complices pour nous faire tomber. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas voir Satan à tous les coins de rue et dans toutes les tentations.
Oui, parce qu'on pourrait tomber dans une forme de paranoïa.
Tout à fait d'accord, oui, oui. Bon, bon alors, par exemple, comment combattre les slogans hein, c'est essentiellement par le glaive de la parole de Dieu. Et je pense que saint Paul parlait aujourd'hui, il parlerait des missiles ou des antimissiles.
Oui, c'est ce que j'allais dire quand on regarde votre ouvrage. Oui. Vous êtes mis au goût du jour.
Oui, c'est cela. Bon, par exemple, tu es trop seul dans ta vie. Je me rappelle une phrase de l'Évangile, « Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. » La grande tactique des saints, c'est de répondre à une tentation par une parole de Dieu. Je rappelle que les moines, qui sont quand même nos modèles dans le combat spirituel, se lèvent une heure plus tôt tous les jours pour faire leur fameuse « Lectio Divina ». Or, ces hommes ne font pas une heure de catéchèse dans leur vie. Ils bouquinent pour prier. Ils bouquinent pour gagner le combat spirituel. Et donc je dis volontiers que nous devrions tous avoir à notre disposition un petit carnet sur lequel nous récupérions des phrases de la Bible qui seraient des armes, hein, des missiles. Chaque fois que je fais ça, d'ailleurs, je m'amuse, quand je prêche une retraite, les gens m'envoient une objection et je réponds par une parole de Dieu. Bon, par exemple, trop c'est trop. Seigneur, t'exagères. J'ai vraiment trop de tuiles dans ma vie. Écoute, le Seigneur me répète, me redire par l'intermédiaire de saint Paul, je ne permets pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Le Seigneur est mon berger, rien ne serait manqué où il me conduit. Hein? Ou bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les saints sont joyeux, les saints combattent leurs tentations de tristesse parce qu'ils vont chercher dans la Bible une raison d'être joyeux quand même. Mmh. Et c'est les saints, la tension de tristesse est fondamentale. Hein? Ou bien j'écoute tout simplement le Seigneur me dire « Sois joyeux, je te le répète, sois joyeux. » Et comme je crois que Jésus ressuscité est tout près de moi, je crois que c'est Jésus en personne qui me dit en français, si j'étais vietnamien, il me dit en français ce qu'il a dit il y a 20 siècles sous Ponce Pilate, en araméen ou en hébreu. Et pour moi, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça.
Qui ne retire rien à l'épreuve telle qu'elle se présente.
Bien sûr. Et alors, surtout, je dois avoir le courage d'aller chercher, d'aller chercher cette parole et l'audace de croire à cette vérité incroyable mais vraie. Je dis volontiers qu'on pourrait terminer toutes les homélies en criant, comme Jacques Martin, « Incroyable mais vrai !» Mais comme on prendrait pour Jacques Martin, je ne le fais pas. Hein? Moi, je passe mon temps, quand je prêche, à rappeler des choses incroyables. Et les saints, ils ont la même psychologie que nous, la même fragilité que nous, mais ils osent croire. C'est ça la grande affaire. J'aime bien rappeler que la première béatitude de l'Évangile et la dernière béatitude de l'Évangile concernent la foi. Heureuse celle qui a cru, dit Élisabeth à Marie. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu, dit Jésus à saint Thomas. Hein? Les chrétiens sont heureux parce qu'ils croient.
Hein? En vous écoutant parler tout à l'heure de la parole de Dieu qui est comme un missile ou comme un glaive, j'ai en tête les propos de l'archevêque de Paris aux catéchumènes qui disait surtout utilisez des petites phrases, apprenez par cœur certains passages de la parole de Dieu qui vous sont chers, qui correspondent peut-être à certains points dont vous avez besoin.
Si on laisse, justement, si on laisse la tentation s'installer, c'est un petit peu tard, quoi. Il faut tout de suite riposter, toc toc. Hein? Et pour riposter, il faut les avoir à l'esprit. La mémoire joue un grand rôle dans la vie spirituelle. Vous voyez, je prêche parfois toute une retraite en méditant le mot du psaume « Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ».
C'est la mémoire, ça.
La mémoire, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je dirais volontiers que le Deutéronome, c'est une espèce de séance de diapositive que le Seigneur fait passer à son... Tu ne te souviens pas de ce que tout j'ai fait pour toi. On passe son temps à faire des petites amnésies spirituelles. Pourquoi est-on, pourquoi râle-t-on si souvent? Parce qu'on oublie tout ce que le Seigneur a fait pour nous.
Je crois que nous sommes avec Jean-Pierre en ligne. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez des questions à poser au Père d'Escouvement.
Au Père d'Escouvement, oui. J'aurais voulu savoir l'origine de Satan. Et en plus, il porte plusieurs noms. C'est un peu le symbole de la division. Belzébuth, Satan, le démon, la bête, un peu tout ça, quoi. Alors, bon. J'aurais voulu savoir son origine.
Alors, l'origine de Satan, cher Jean-Pierre, c'est tout simplement, c'est Dieu qui a créé des anges, mais il ne pouvait pas donner aux anges l'impeccabilité qu'il a lui-même. En créant des créatures, Dieu savait qu'il y a des créatures qui rateraient leur vie, qui rateraient leur existence. Ouais. Bon, mais si, comme disait l'autre, si cette perspective de l'échec de certains anges et de certains hommes avait empêché Dieu de créer, c'est finalement le mal qui aurait empêché Dieu. Le mal aurait été plus fort que Dieu. Dans sa sagesse incompréhensible, Dieu a préféré créer des anges et des hommes capables de pécher que de ne rien créer du tout. Bon, mais c'est tellement difficile d'accepter d'être une créature, j'aime rappeler ça, hein, c'est tellement dur de ne pas dire comme Paul Valéry, je suis excédé d'être une créature, que le Fils de Dieu lui-même, ne l'oublions pas, a pris une âme de créature dans le sein de la Vierge Marie pour qu'il y ait enfin une créature à accepter sa condition de créature. Je répète, c'est tellement difficile d'accepter de ne pas être le bon Dieu finalement, d'accepter notre fragilité foncière de créature, que le Fils de Dieu lui-même a pris non seulement un corps, mais une âme comme la nôtre pour qu'il y ait enfin une créature à jouer le jeu de sa créature. Quand, par exemple, nos anges gardiens, qui ont fait le bon choix. Nos anges gardiens auraient pu devenir des démons. Ils ont été créés immaculés, mais pas impeccables. Eh bien, si nos anges gardiens ont réussi à faire le bon choix, que n'ont pas fait les démons, c'est par une grâce qui leur vient de Jésus. Nos anges seraient des monstres d'orgueil s'ils disaient « Nous avons fait le bon choix, nous ne sommes pas devenus des démons. » Encore une fois, je répète, c'est tellement difficile d'accepter d'être une créature fragile que le Fils de Dieu a pris une âme de créature pour qu'enfin une créature dise oui à Dieu.
D'ailleurs, on peut retrouver dans le dossier « Il est vivant, le diable existe-t-il » un passage précisément qui rappelle cette existence de Satan et sa source. Grand merci Jean-Pierre pour votre question. N'hésitez pas, vous auditeurs, 0892-68-80-30 si vous souhaitez poser des questions à notre invité, au père Pierre d'Escouvement. Il y a une réalité, c'est cette action, vous avez parlé d'anesthésie, mais il y a aussi le camouflage. La propagande.
Alors, je crois qu'il faut aussi que Satan utilise en quelque sorte la propagande. Bon, c'est-à-dire, ce n'est pas lui qui suscite les hérésies. Bon, mais il se sert j'ai tout un chapitre où je montre que pour être fort dans le combat, il faut croire à un certain nombre de mystères qui nous sont proposés dans l'Écriture et auxquels mystères l'Église nous dit d'adhérer pleinement. Bon, par exemple, si je ne crois pas au réalisme de l'Eucharistie, je n'ai pas cette joie de savoir que lorsque je communie, c'est vraiment Jésus qui m'empoigne de ses mains pour me rendre fort. Si je ne crois pas à la présence de la Vierge Marie dans ma vie, je n'ai pas, comme j'appelle, cette couverture aérienne, cette joie de m'abriter sous le voile virginal de Marie, comme l'ont fait tous les saints. Si je ne crois pas à la réalité de l'enfer, si je ne crois pas que je peux rater ma vie par orgueil, eh bien justement, je n'entrerai pas dans le combat spirituel avec la même vigueur. Si je ne crois pas qu'il n'y a pas des... Pourquoi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, arrive-t-elle au Carmel ? Pour empêcher d'autres Pranzini de tomber en enfer. Elle est embarquée dans une entreprise de sauvetage, comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint François Xavier, Saint Ignace de Loyola, etc.
Donc, est-ce que cela vaut encore pour aujourd'hui ?
Mais bien sûr.
Opération de sauvetage,
Bien sûr, c'est évident. Voyez, je me permets de vous dire que s'il y a moins de gens qui rentrent dans les séminaires et dans les couvents, c'est qu'on ne croit plus, justement, que la vie est quelque chose de dramatique. Voyez ? Imaginez que je dise, je crois que c'est très important à comprendre ça, imaginez que je sois un éducateur chrétien qui dise, vous savez les gars, faut pas vous en faire, le bon Dieu il est tellement bon qu'on va tous au paradis. Faut pas vous en faire, on va tous au paradis.
Il y a la chanson d'ailleurs qui dit ça, on ira tous au paradis.
Bon, oui, eh bien, c'est terrible parce que ça encourage les jeunes au suicide.
Parce que quel est le lien, parce que c'est pourtant une belle perspective en soi.
Non, parce que si la vie, si nous allons tous au paradis, qu'est-ce que je fais au moment où je suis découragé? Je prends le TGV pour aller au paradis, je me suicide. Et la vie devient inintéressante. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre si c'est une simple antichambre du paradis? La vie est insensée. Pourquoi Dieu nous est sur la Terre? Pourquoi ne nous met-il pas tout de suite au paradis? Comme dirait l'abbé Pierre, la vie c'est un peu de temps donné à une liberté pour apprendre à aimer. C'est pas joué d'avance. Alors ça devient intéressant. Et si la Terre est une simple antichambre, s'il y a un bouchon sur la bretelle qui nous mène au paradis, la vie devient insensée. Non, je pense que tous les grands saints ont compris que la vie était dramatique. On est dans un combat, dans un sauvetage, et il faut gagner. Mais il faut aider les autres à gagner.
Alors le paradoxe, c'est que par exemple, on voit bien pour les grands saints, plus ils rentrent dans le combat spirituel, et plus c'est difficile, tentation est grande. Enfin, c'est ce qu'on perçoit de l'extérieur.
Ce qui est vrai, c'est que les grands saints ont des combats dont nous n'avons pas idée. C'est les prêtres qui ont un petit peu de bouteille, comme je peux l'avoir, ont rencontré des gens qui sont d'une extrême générosité et qui ont des combats extraordinairement difficiles. Et pense à une personne, par exemple, qui a passé des heures à prier devant le Saint-Sacrement toute une nuit. Et maintenant, quand elle va à la messe, elle a l'impression d'être une bûche, d'être la plus nulle. Et je lui dis, mais ça, c'est le Seigneur qui le permet. C'est ce qu'on appelle la nuit spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a des grands saints qui ont l'impression, à la fin de leur vie, d'être archi-nuls et de ne plus avoir du tout envie d'aimer Dieu. Vous voyez ? Et qui sont, regardez même la petite Bernadette, à la fin de sa vie, elle se demandait si elle avait vraiment vu la Sainte Vierge. Ce sont des choses à ne pas trop... je ne pense pas que parmi nos auditeurs, il y en ait beaucoup qui connaissent cette véritable nuit spirituelle, qui n'est pas une simple aridité, qui n'est pas le simple fait que la prière est parfois difficile. Mais la véritable nuit spirituelle, c'est quand la personne a l'impression, comme me disait une personne, que le diable a volé mon cœur, que je ne comprends plus cette phrase de saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Je n'ai plus d'élan vers Dieu. » Ça, c'est terrible.
Comment on s'en sort? Parce que là, vous parliez de riposte.
À vrai dire, dans mon livre, je signale un peu cette nuit spirituelle très forte, parce que ça demanderait un autre livre. Il faudrait commenter davantage les dernières pages de Sainte Thérèse d'Avila dans son livre des demeures. Ces personnes s'en sortent, là aussi, en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, je crois que je suis ton enfant bien-aimé. Seigneur, je crois que tu es mon père. Je crois que le Seigneur est mon berger. Rien ne serait manqué où tu me conduis, même si j'ai l'impression de passer par un ravin de ténèbres.
Nous sommes avec Béatrice en ligne. Bonjour Béatrice.
Bonjour mon père, bonjour tout le monde. Écoutez, oui, moi je vous écoute attentivement. Et effectivement, j'ai eu dans ma vie des manifestations, peut-être comme beaucoup de gens, des manifestations négatives par moment. Et je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait que la spiritualité existait.
Sous quelle forme ces manifestations, Béatrice?
En fait, je voulais vous poser une question, mais j'allais vous dire ça parce que ça me vient quand même maintenant. Maintenant, c'est passé, mais j'ai eu des moments où j'ai vu la nuit un personnage un peu grotesque qui m'apparaissait pour me faire peur, en fait. Et je sais que je ne dormais pas, donc mon mari dormait à côté de moi. Je sais que j'ai vu ces personnages et c'était très impressionnant. Et j'ai tout de suite, comme j'étais quand même déjà dans la foi, j'ai tout de suite appelé le Seigneur en disant je sais qui tu es, enfin en interpellant l'être qui passait comme ça et en lui disant tu peux t'en aller au nom de Jésus. Et effectivement, quelques temps après, ça s'est terminé.
Tant mieux.
J'avais quand même cette foi qui m'a aidée avec le Seigneur. J'ai prié tout de suite. Mais une question. Donc, je pense que ça arrive à plein de gens, puis qu'on le dit peut-être pas assez que ça existe. Et une question, oui, que je me pose parce que je suis allée dans une conférence il y a quelques années sur le thème de l'exorcisme. Et il y avait quelques prêtres qui étaient là, qui venaient en parler, des laïcs aussi. Et j'ai pas compris parce que les prêtres qui étaient là niaient plutôt l'existence de Satan et on parlait toujours de problèmes pathologiques, des gens, de psychiatriques, ce qui existe évidemment, c'est certain, mais il y a quand même des gens qui vivent des choses, parce que là, mon père vous le dites vous-même, Je pense que c'est rare, évidemment très rare, mais ça existe. Et ces prêtres-là, même si c'était des cas infimes, peu de cas qu'ils avaient connus, ils n'en parlaient même pas. Donc on est sorti de là en se disant, bon, ben, tout ça, c'est l'illusion. On est dans le pathologique ou dans les problèmes psychiatriques des gens qui imaginent des choses. Venant des prêtres, vous voyez, ça m'avait un peu suffoqué. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça?
Bon, écoutez, je ne les connais pas, ces prêtres-là. J'aime bien ne pas les rencontrer.
Non, j'ai oublié.
Ce que je peux vous dire, c'est que à Rome, depuis quelques années, se réunissent a lieu un congrès international des exorcistes qui justement prennent très au sérieux l'existence du diable et la nécessité de le combattre par l'exorcisme. Donc, rassurez-vous, sur le plan international, il y a beaucoup de prêtres qui prennent au sérieux leur ministère d'exorciste. Voilà.
Même si, Père, quand Béatrice parle de manifestations ou de difficultés thérapeutiques ou d'ordre psychologique, c'est vrai que toutes ces sciences psychologiques permettent de progresser dans la connaissance de l'homme et aussi dans l'action de...
C'est-à-dire que ces exorcistes partout dans le monde travaillent en accord avec des psychiatres, parce qu'il est évident qu'il y a des personnes qui viennent voir un exorciste et qui n'ont pas du tout pas maille à partir avec le diable, mais qui ont des problèmes psychologiques. Donc il faut le savoir. Bon. Mais le test le plus significatif de l'intervention de Satan, c'est quand la personne ne peut plus faire des actes de foi, d'espérance et de charité. Vous voyez, c'est là que Satan agit le plus. Il empêche les gens de prier. Il empêche les gens de dire la moindre prière vocale. Voilà, ça c'est une espèce de test fondamental.
Père Descoumont, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Gagner le combat spirituel » paru aux éditions de l'Emmanuel. N'hésitez pas à intervenir 0892 68 80 30 pour poser des questions au Père Descoumont. Tout de suite, un peu de musique et on se retrouve juste après.
Radio Notre-Dame.
Les anges dansent, c'est interprété par Daniel Piala. Et dans l'émission Aujourd'hui l'Église, nous sommes avec le père Pierre Descouvemont. Gagner le combat spirituel, c'est le titre de son dernier ouvrage paru aux éditions de l'Emmanuel. Une émission en partenariat avec Il est vivant, le mensuel de la nouvelle évangélisation, disponible en kiosque, dont le dossier s'intitule « Satan existe-t-il ? » Bien sûr, la réponse, la vôtre, c'est évidemment oui. Et ceux qui disent non sont complètement endormis, en gros. Hein, c'est ce qu'on retient de cette première partie. Pour gagner le combat spirituel, encore faut-il conduire une riposte, hein, père Descouvemont.
Alors, disons quelques mots de cette riposte que nous avons amenée contre le mal, contre le péché, mais aussi contre le malin. Et c'est pas idiot de prendre des résolutions, voyez. C'était, jadis, il y a un certain moment, les résolutions, de toute façon, on ne les tient pas. Mais une résolution, c'est fait pour être repris, justement.
Et alors, constamment repris.
Ben oui, c'est ça, oui. J'aime beaucoup ce que dit un prêtre du diocèse de Paris, Pierre Guilbert, dans son livre « La prière retrouvée ». Il faut avoir la fidélité de ses recommencements. Je trouve ça très, très beau. Hein, nous récidivons en péché et le Seigneur, lui, récidive en pardon. Et nous devons récidiver en résolution. Bon.
C'est une perspective d'une vie de combat parfois un peu fastidieuse.
Mais c'est-à-dire que c'est comme, vous savez, les sportifs savent très bien qu'il faut sans cesse s'entraîner pour réussir à gagner des championnats. Les sportifs ne remettent jamais en question l'importance de l'entraînement. Hein. Et Saint Paul lui-même prend cette comparaison du stade pour nous expliquer que nous devons accepter de nous battre. Le mot ascèse, hein, le fameux mot ascèse, veut dire exercice. Alors, pour les résolutions, je pense être utile aux auditeurs en leur disant qu'il y a deux façons de prendre résolution. On peut prendre une résolution contre ce qu'on appelle son péché mignon. Entre parenthèses, le péché n'a rien de mignon. Enfin, si j'ai une tendance à me mettre en colère, je vais une fois de plus décider de me maîtriser lorsque j'aurai un accès de colère. Bon. Mais on peut prendre aussi une résolution sur son point fort. Et je pense que ça peut aider les gens. Bon, moi j'ai plutôt une spiritualité de la joie. Quand je me confesse, je demande pardon au Seigneur de ne pas être suffisamment joyeux. Parce que je me rends bien compte que je peux être encore beaucoup plus... obéir beaucoup plus à ce commandement que le Seigneur fait sans cesse résonner dans mon cœur. Petit Pierre, sois joyeux. Une personne très disponible à son prochain va prendre avec justesse comme résolution d'être encore plus disponible. Et ce n'est pas du scrupule. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que le Seigneur lui demande de creuser davantage ce sillon qu'elle a commencé à faire.
Voyez, une manière joyeuse de percevoir
oui, c'est ça. On peut se prendre une résolution sur son point faible ou sur son point fort ou sur les deux à la fois. Mmh. Bon. Je pense qu'il est très important aussi de se rendre compte que la tristesse n'est pas forcément un péché. Je viens de parler de la joie. Il y a une tristesse qui n'est pas péché. On n'est pas obligé d'avoir de l'enthousiasme. Bon, il y a des saints qui ont eu beaucoup d'humour. Je pense aux carmélites de Compiègne ici qui ont été guillotinés à Paris le 17 juillet 1794, 10 jours avant la chute de Robespierre, et qui, pour se donner du moral, ont chanté dans leur prison de la Salpêtrière un air, une chanson que l'une d'entre elles avait composée sur un air de l'époque. Livrons nos cœurs à l'allégresse, le jour de gloire est arrivé. Loin de nous toute faiblesse, le glaive sanglant est levé, montons à l'échafaud et rendons le vainqueur. Bon, ça a de l'allure, mais Jésus n'a pas fait d'humour au calvaire. Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus souffre terriblement des intestins parce que la tuberculose a gagné les intestins dans la deuxième quinzaine du mois d'août, elle fait pas d'humour. Elle se contente de dire « je souffre, je souffre ». Je dis ça parce que vous avez des gens qui se culpabilisent de ne pas avoir de l'enthousiasme. L'enthousiasme n'est pas forcément au rendez-vous quand on souffre beaucoup.
Il ne faut pas se complaire de toute façon dans la souffrance.
Mais non. Personnellement, je ne dis jamais à la fin d'une messe « allez dans la paix et la joie du Christ ». Je pourrais le dire puisque saint Paul nous dit d'être toujours joyeux, mais j'aurais trop peur qu'une personne en plein deuil, qui écoute le salut final,
ait l'impression que je me moque d'elle parce que je lui souhaite la joie. En français, le mot joie connote une euphorie qui n'est pas toujours possible, tandis que la paix dans le fond du cœur est toujours possible.
Vous évoquiez la tristesse ou vous évoquiez d'autres traits comme la colère, mais il y a peut-être des formes plus graves ou plus difficiles à aborder.
Oui,
le péché, par exemple, quand on prend votre livre, vous écrivez la gourmandise, alors ça peut paraître léger, l'avarice bien sûr, mais aussi la fornication.
Oui. Alors, je pense justement, je cite un texte très important de Saint Jean de la Croix, qui explique, j'ai expliqué ça à des jeunes, je sais combien de fois, qu'il y a deux façons de riposter aux tentations où le corps a beaucoup d'importance, comme la colère et la luxure. On peut se redire une fois de plus, « Oh, j'ai pris la fois dernière une bonne résolution, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. » Et en général, quand on se contente de cela, on est perdant. Il y a une autre façon, dit Saint Jean de la Croix, beaucoup plus humble, c'est de quitter le champ de bataille. Au lieu de regarder la tentation telle qu'elle est et de se dire c'est pas beau, on regarde Jésus. On prend l'hélicoptère en quelque sorte, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur. Au lieu de raisonner sur la tentation, au lieu de dire c'est pas beau, je ne dois pas, Jésus, Jésus, Jésus. Et pendant ce temps-là, comme on ne regarde que le visage de Jésus, les mains de Jésus, eh bien on ne pense plus à sa tentation. Et je suppose que je sois pris d'une terrible tentation de rancune, de colère contre quelqu'un qui vient de me jouer un mauvais tour. Bon, j'ai envie de lui casser la figure. Bon, au lieu de raisonner en disant « c'est pas beau d'être en colère », Jésus, Jésus, Jésus. Je quitte le champ de bataille et je me précipite dans ce que j'appelle le char blindé des mains de Jésus. Moi, je crois profondément que les mains de Jésus, c'est une réalité.
Ce qui, en quelque sorte, libère aussi, dans la manière dont vous le dites, libère d'une perception moralisatrice.
Exactement. Je ne suis pas. C'est pas un péché d'avoir cette tentation de colère ou même cette tentation de luxure. C'est pas du tout un péché. C'est une tentation. Et donc, au lieu d'essayer de me battre par moi-même contre cette tentation, je sais que je suis tellement fragile, je suis comme un enfant, je suis comme la petite brebis qui va se loger sur les mains du bon pasteur, dans les mains du bon pasteur, pour réussir.
Et après, ça marche,
c'était
le char blindé de Jésus.
Bon, j'aime beaucoup le mot de saint François de Sales, reprenant lui-même un texte d'Isaïe, « Le Seigneur conduit au repos les brebis, mais les agneaux fragiles, il les porte dans ses bras.
Hein » Mais ces phrases ne sont pas vaines. On sait quelles sont
l'expérience. Hein,
nous sommes avec Godéric au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez un témoignage ou peut-être des questions
à
poser?
Oui, en fait, voilà, je voulais réagir au sujet de ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet du diable et des manifestations.
Oui.
Voilà, en fait, moi j'ai 17 ans.
Oui.
J'ai vécu un an au Panama dans le cadre d'un échange culturel. Au Panama, en Amérique centrale.
Oui, oui.
Et là-bas, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie.
Enfin,
notamment,
dire, oui.
J'ai rencontré la foi.
D'accord.
Et, enfin, ça s'est fait au cours de toute une série de choses, mais en particulier un grand rassemblement de jeunes de renouveau charismatique, dont le thème était « Dieu fait nouvelle toutes les choses ». Vous savez cette phrase, je crois que c'est dans l'Apocalypse.
Exactement, oui.
Et en fait, Dieu a fait nouvelle ma vie. À partir de ce moment-là, enfin, tout a changé en moi. Et enfin, j'ai senti une grande... Je sais pas, comme quelque chose qui monte de joie profonde, de vrai bonheur dans mon cœur. Et, enfin, ma vie a changé. Et quand j'étais là-bas, un jour que je faisais ma prière comme tous les soirs, je voulais prier et d'un coup, j'ai senti comme quelque chose qui m'empêchait de prier, qui m'étouffait, et j'ai entendu comme quelque chose rire, comme une voix rire dans la nuit alors que j'étais tout seul dans ma chambre. Et alors, j'ai attrapé mon chapelet, j'ai commencé à prier. Et comme le disait la dame tout à l'heure, j'ai dit au nom de Jésus... Va-t'en, et après ça s'est calmé.
Bravo.
Et plusieurs fois ça m'est arrivé. Mais...
Vous avez pu en parler
Et j'en ai parlé à un prêtre qui m'a donné de l'eau bénite et j'ai parlé longuement. Mais c'est quelque chose, avant je n'y croyais pas du tout. Pour moi c'était ça n'arrivait qu'aux autres, enfin, c'était des blagues. Et jusqu'au jour je me suis rendu compte que bah non en fait. Et tout ça je comprends tout à fait les gens qui disent que c'est des... qui parlent de psychologie, de délire, de folie, parce que moi aussi avant j'étais comme ça. Et...
Merci pour. Mais j'ai rien à ajouter. C'est un témoignage peut-être très intéressant. Hein, quelqu'un qui s'est mis à expérimenter l'existence du diable après sa conversion.
Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Et vous le rappelez dans votre ouvrage.
Hein. Oui. C'est très intéressant. C'est très simple. C'est très simple et je me permets de dire que c'est assez classique finalement. Même s'il n'y a pas deux itinéraires spirituels qui sont semblables, votre témoignage peut aider les autres à accepter d'être parfois tourmentés par le diable alors que... qu'ils ne font rien de mal, quoi.
Merci beaucoup, Godéric, pour votre témoignage. La phrase « Au nom de Jésus, va-t'en », c'est efficace.
Oui, c'est-à-dire que, normalement, en tout cas, le prêtre n'interpelle Satan directement que s'il a reçu de son évêque le pouvoir d'exorciste.
Mais c'est pratiquement... Dans la prière personnelle.
Mais bon, tout à fait.
Comme Godéric, ou tout à l'heure, je crois, Béatrice.
Tout à fait d'accord. Oui, oui. Hein,
c'est une phrase qui convient.
Mais bien sûr.
En tout cas, cet enracinement... Dans le Christ, hein, que vous appelez char blindé, vous blottissez, ou il faut se blottir dans les bras de Jésus.
Oui,
il y a cette fameuse couverture aérienne aussi.
La couverture aérienne, c'est le fameux voile virginal de Marie. Vous savez que c'est la grande idée de Grignon de Montfort, cette idée d'ailleurs qui a réconcilié Karol Wojtyla avec la dévotion mariale des Polonais, qu'il ne supportait pas lorsqu'il était jeune, à savoir que la Sainte Vierge n'est pas seulement un regard posé sur nous, mais c'est aussi un voile qui nous entoure. Hein, vous connaissez peut-être une petite strophe d'une poésie de Thérèse. « Ô Vierge Immaculée, c'est toi ma douce étoile qui me donne Jésus et qui m'unis à lui. Ô Vierge, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui. » On ne sait peut-être pas que Thérèse de l'Enfant Jésus a reçu une grande grâce mariale à l'âge de 16 ans et demi, en juillet 89, quand elle s'est sentie pendant toute une semaine enveloppée par le voile virginal de Marie. Et c'est une grâce tout à fait... Moi, j'y crois, mais je ne l'ai pas expérimenté. Thérèse a eu la grâce, la chance de sentir pendant toute une semaine qu'elle était enveloppée par ce voile virginal de Marie. Et ça a évidemment transformé sa dévotion mariale.
Il y a aussi la musique militaire, ce que vous évoquez dans le combat spirituel. Oui. Pourquoi la musique?
Eh bien, parce que c'est évident qu'il n'y a pas de combat sans musique militaire. Alors, je me permets de vous citer une petite chanson que j'ai composée sur un air de Beethoven et qui m'aide dans mon combat spirituel.
À vous, personnellement?
Oui. La joie est chanson chrétienne, et Dieu veut qu'elle revienne, me bercer comme une antienne que Jésus d'abord chanta. Loin de nous toute tristesse, chantons tous Alléluia, Notre-Dame de Liesse, avec toi dansons de joie. Et pour l'importance de la lecture spirituelle. Il n'est pas toujours facile d'être une âme qui jubile, c'est en lisant l'évangile qu'on devient toujours joyeux. Jésus déploie sa puissance pour guérir les malheureux, et par sa douce présence, il remplit nos cœurs de Dieu. Pour garder notre courage, à toute heure et à tout âge, tournons bien notre visage vers Jésus notre Sauveur. Il ne cesse de sourire à tous les pauvres pécheurs, et nous savons qu'il admire ceux qu'il aime de tout cœur. Il y a d'autres versets, mais d'autres... Voilà.
Cette chanson-là, vous la chantez à quel moment précis?
Oh, quand, de temps en temps, mais il ne faut pas attendre d'être... Il faut se donner du moral. Bon, c'est une habitude que j'ai prise quand j'étais prof, vous voyez, quand je parcourais les couloirs avant de faire reculer l'ignorance des élèves, je me donnais du moral en chantonnant, quoi.
Chantonnais dans votre tête?
Mais c'est-à-dire que actuellement j'habite un collège où je suis tout seul la nuit, alors je peux me donner à cœur joie de chanter pendant la nuit.
et précisément, vous avez beaucoup cité Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, sont les alliés autant de la terre que du ciel.
Moi, je pense que les saints sont des alliés, mais sont des modèles aussi, des modèles de combat et de victoire. Hein.
Quel est le terme de ce combat? Est-ce qu'on peut le remporter, et si oui, à quel moment?
Alors, à la fin de mon livre, je rappelle que le combat essentiel, il a lieu à l'heure de la mort, sinon le « Je vous salue Marie » est ridicule. Pourquoi demandons à la Sainte Vierge de nous aider à ce moment-là? Parce que ce sera le grand combat. Hein, j'aime bien rappeler le mot de Victor Hugo, « À la mort, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. Je me ferai tout nu sans mes oripeaux de vanité, je me verrai plus misérable que jamais, et c'est à ce moment-là que je devrai dire à Dieu le pardon qu'il attend de moi depuis toujours. Même si je me suis confessé 3 minutes avant de mourir, c'est au moment de la mort que je dirai enfin à Dieu, « Ô Seigneur, je ne savais pas que j'étais orgueilleux et de mauvaise foi à ce point-là, pardon. » Hein, c'est pour les chrétiens, la grande grâce, on la reçoit au moment de mourir, même si on meurt dans le coma. J'ai vu mon papa mourir avec assistance respiratoire dans le coma. Je me disais, papa, tu vas bientôt faire l'acte le plus important de ta vie. Je ne l'ai pas vu, mais je crois que tous nous avons à vivre ce moment-là.
Mais d'où l'importance de ne pas rater un moment de sa vie quand on respire. Hein,
oui, c'est ça. On se prépare à cet ultime combat.
Je vous renvoie...
Après la victoire définitive, évidemment, dans le ciel.
Oui. Je vous renvoie à ce livre, Gagner le combat spirituel du père Pierre d'Escouvemont, paru aux éditions de l'Emmanuel. Un grand merci à vous d'avoir été avec nous. Il y a également ce dossier dans Il est vivant, le mensuel de la Nouvelle Évangélisation. Satan existe-t-il ? Vous retrouvez ce mensuel Il est vivant en kiosque au prix de 4,60 €. Un grand merci à vous. Cette émission était en partenariat, était réalisée en partenariat avec la rédaction d'Il est vivant. Demain, eh bien, on se retrouve pour l'émission Aujourd'hui l'Église et nous parlerons de la vie sexuelle. Est-ce un tabou ? C'est dans le cadre de ces émissions, cette série d'émissions sur la vie conjugale. À demain donc et bien sûr avec votre question et vos témoignages.
Radio Notre-Dame.
Radio Notre-Dame.
Bien dans la foi.
Bien dans la vie.
Bien dans la vie.
Il est 11h43 et nous retrouvons maintenant Marie-Noëlle Tabu pour En Marche vers dimanche.
En Marche vers dimanche.
Les textes de la liturgie de ce dimanche dans leur cohérence. Aujourd'hui, la première lecture.
Une émission de Marie-Noëlle Tabu.
Parole du Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, dont le Seigneur est l'espoir. Il sera comme un arbre planté au bord des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Il ne redoute pas une année de sécheresse, car elle ne l'empêche pas de porter du fruit. Le début du texte est vraiment fait pour nous impressionner. Vous avez entendu cette introduction solennelle. Quand un prophète emploie l'expression « parole du Seigneur », c'est toujours pour nous alerter. C'est comme s'il nous disait « attention, ce que j'ai à vous dire est très grave ». Et c'est le Seigneur lui-même qui vous parle. Et ici, la suite, évidemment, fait un peu peur. « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel ». On se pose deux questions. Premièrement, Dieu peut-il nous maudire ? Et deuxièmement, après tout, mettre sa confiance dans un mortel, c'est-à-dire un homme, en quoi est-ce mal ? Je reprends ces deux questions, l'une après l'autre. Première question, Dieu pourrait-il nous maudire ? Peut-il souhaiter notre malheur ? Sûrement pas, lui qui cherche inlassablement à nous sauver. L'expression « maudit soit » chez les prophètes est une mise en garde, en fait. Du genre « attention, vous filez un mauvais coton, vous avez pris un chemin dangereux, une pente glissante et cela finira mal. » L'expression symétrique « béni soit » est au contraire un encouragement du genre « continuez ». Vous avez pris le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. La deuxième question, c'est mettre sa confiance dans un mortel, en quoi est-ce mal ? Jérémie nous dit « maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel ». Alors, devons-nous nous méfier les uns des autres ? Sûrement pas non plus, puisque le projet de Dieu est que l'humanité soit tellement unie que nous ne fassions plus qu'un tous ensemble. Donc toute méfiance entre les hommes est contraire à ce projet de Dieu. En fait, dans la Bible, le mot « confiance » est un mot très fort qui signifie « s'appuyer sur », comme on s'appuie sur un rocher. Et dans ce sens-là, effectivement, on ne doit s'appuyer que sur Dieu. Il faut relire la phrase de Jérémie en entier. « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. » Ce qui est grave, c'est de se détourner du Seigneur. Bien sûr, nous pouvons, nous devons nous appuyer les uns sur les autres, mais cela ne doit pas nous détourner du Seigneur. Jérémie vise probablement ici deux erreurs des rois, des chefs religieux et du peuple tout entier de son temps. Premièrement, l'idolâtrie, et deuxièmement, les alliances. Je commence par l'idolâtrie. Vous savez que plusieurs rois ont réintroduit en Israël d'autres cultes que celui du vrai Dieu. À Jérusalem même, on invoque d'autres dieux, on les prie, on leur offre des sacrifices. Un peu plus loin, Jérémie le dira expressément. « Mon peuple, lui, m'a oublié. pour brûler des offrandes à ceux qui ne sont rien. » Jérémie, chapitre 18, verset 15. Quant aux alliances, Jérémie a eu maintes occasions de méditer sur la politique des rois de son temps. Au lieu de compter sur la protection de Dieu seul, les rois ont accumulé les manœuvres diplomatiques, s'alliant tour à tour avec chacune des puissances du Moyen-Orient. Mais ils n'y ont récolté que des guerres et du malheur. Et quand on demande la protection d'un roi de la terre, il ne faut pas se faire d'illusions, on devient inévitablement son vassal, on perd automatiquement sa liberté. Ce sera exactement le destin du roi Sédécias, peu de temps après cette prophétie de Jérémie. Jérémie le raconte plus loin dans son livre. Sédécias a compté sur ses manœuvres diplomatiques, il a compté sur sa force militaire, il n'y a récolté qu'échec, massacre, humiliation pour lui et pour son peuple. Jérémie raconte ce destin de Sédécias au chapitre 39, versets 1 à 10. On est là en face d'une des grandes exigences de l'alliance conclue avec Dieu au Sinaï. Parce qu'Israël était investi d'une mission de témoignage au milieu des nations, il lui était demandé de ne jamais rechercher une alliance autre que l'alliance avec Dieu. À vue humaine, cela peut paraître fou. Mais quand on a l'immense honneur d'être le peuple élu de Dieu, on n'a pas le droit de raisonner à vue humaine. Entre nous soit dit, cette remarque est également valable pour nous, Église du Christ. Quand on a l'honneur d'être l'Église du Christ, on n'a plus le droit de raisonner à vue humaine. Au moment où Jérémie écrit notre texte d'aujourd'hui, il est encore temps de mettre en garde. Et donc, il tire la sonnette d'alarme. Voilà pourquoi ce texte apparemment sévère. Il insiste. La seule source d'eau vive pour l'homme, c'est le Seigneur. Le seul appui, c'est le Seigneur. Se priver d'une source d'eau vive, c'est se priver d'eau. Et donc, c'est connaître la sécheresse. Vous reconnaissez les premiers versets de notre texte. Quelques versets plus loin, Jérémie reprend exactement la même expression. Ils abandonnent leur source d'eau vive, qui est le Seigneur. Jérémie, chapitre 17, verset 13. Le texte d'aujourd'hui, c'est ce même chapitre, versets 5 à 8. Et déjà au chapitre 2, il avait dit la même chose. Je cite, « Il est double le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, c'est Dieu qui parle, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Jérémie, chapitre 2, verset 13. « Ceux-là ont fait le mauvais choix. L'avenir montrera qu'ils se sont trompés. On dira leur malheur. » Et c'est le sens du verbe « maudire »,« malé »,« dicere », »,« dire le malheur ».« Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. » Mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, ceux-là ont fait le bon choix. On ne peut que les féliciter. Et l'avenir montrera qu'ils ont eu raison. On dira du bien de leur conduite, on dira leur bonheur. C'est exactement le sens du mot « bénir »,« benedicere » en latin. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, l'homme dont le Seigneur est l'espoir. Enfin, pour terminer, une fois de plus, nous remarquons les affinités profondes entre Jésus et Jérémie. Dans l'évangile des Béatitudes, par exemple, que nous lisons également ce dimanche, mais aussi dans le thème de l'eau vive, il suffit de se rappeler la phrase que Jésus a prononcée à l'occasion de la fête des Tentes à Jérusalem. Je cite l'évangile de Jean au chapitre 7. « Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. » Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Thank you.
À l'instant, c'était le mouvement Allegro de la sonate pour deux violons de Jean-Marie Leclerc. C'est la fin de cette édition régionale. Bien sûr, on se retrouve demain dès 10h. N'oubliez pas, d'une part, la rediffusion à 20h de l'émission Aujourd'hui l'Église. Et puis, bien sûr, sur notre site internet www.radionotredame.com, vous pouvez réécouter toutes nos émissions pendant une semaine. Je rappelle le titre de l'ouvrage du Père Descouvement, « Gagner le combat spirituel aux éditions de l'Emmanuel ».
Les musiques.
Chaque mardi à 16h, une heure de musique et d'information pour élargir vos connaissances musicales, repérer un style, une époque, un compositeur.
Paroles et musiques, proposées par Claire de Castellane, chaque mardi à 16h.
Au cœur de Saint-Germain-des-Prés depuis 15 ans, Recyclor s'occupe de toutes vos transactions d'or et métaux précieux. Lingots, pièces cotées, bijoux anciens et modernes, débris, métaux précieux industriels, mais également diamants, platine, palladium. Recyclor est à votre disposition pour une expertise gratuite tous les jours. Et pour toujours mieux vous servir, Recyclor rachète désormais l'argent sous toutes ses formes. Pour négocier dans les meilleures conditions et avec discrétion, Recyclor, 29 rue des Saints-Pères dans le 6e, 01 42 60 24 24, www.recyclor.com.
Pour une écoute et un conseil personnalisé sur vos prothèses auditives, contactez Audition Royale. Pour des prothèses auditives de qualité et performantes, contactez Audition Royale. Pour des prothèses auditives aux meilleures conditions et tarifs, contactez Audition Royale. Maintenant, bien entendre n'est plus un luxe. 01 53 25 05 45. 01 53 25 05 45.
Génération.
Bonsoir.
Génération.